Bonjour à toutes et à tous, curieuses et curieux, décadents ou décatis, insubordonnés, borderline et bordéliques, bonjour et bienvenue. Vous écoutez l'onde curieuse de ce lundi 24 novembre, gris et humide. Mais enfin Sylvain, qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu as annoncé à la météo? Aujourd'hui, on diffuse la première partie d'une interview qui en comprend deux sur Jean-Claude Lecoq, sa vie, son œuvre opiacée. Le bonhomme a commis un bouquin trop vieux pour mourir jeune, et de manière complètement inconsciente, j'ai proposé à deux jeunes filles, alors en stage à Fréquence 7, dont l'une est mineure, de l'interviewer. Lui qui fait la promotion des paradis qui ont le goût de l'enfer. Bref, c'est à écouter dans quelques minutes, et la seconde partie demain. Mais avant ça, je salue Sylvain et je remercie.
Bonjour.
Bonjour Sylvain, toujours fidèle au poste,
oui,
en
oui.
Régie. Ah oh, oui. Et puis bien sûr, d'abord, c'est l'agenda. Demain, c'est le 25 novembre. Autrement dit, depuis 26 ans, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et pour sensibiliser à ce scandale quotidien, le CIDFF, avec de nombreux partenaires, organise à Aubenas, Privas ou Annonay l'événement « Une femme toutes les 48 heures ». « Une femme toutes les 48 heures », faut-il le rappeler, signifie qu'une femme est tuée, en moyenne, tous les deux jours, par son conjoint ou son ex-conjoint. Pour cette troisième édition de la manifestation, le CIDFF propose de rendre hommage aux femmes victimes de féminicide conjugal en s'inspirant de l'installation de l'artiste Elina Chauvet, Zapatos Rojos. Il s'agit de symboliser les victimes de féminicide par des paires de chaussures rouges qui seront installées place de l'Agora, ou en cas d'intempérie, mais je ne pense pas, au gymnase du lycée Marcel Gimon. Ce sera de 10h à 15h, donc sur l'Agora. Et à midi 15 et 14h15 sera présentée une performance de danse collective, Les Vaillantes, réalisée par Laurie Péchier-Pimon avec l'association Forma. 60 femmes venues d'horizons, de trajectoires ou de géographies différentes danseront pour honorer les victimes et encourager les survivantes, pour soulever aussi les regards et les résistances. Elles sont les vaillantes d'un jour et de toujours. Et puis vous retrouverez de 10h à 15h pendant toute la durée de l'événement tous les des stands de partenaires avec des infos, la sensibilisation, etc. Et le soir, toujours à Aubenas, dans le cadre également du mois du film documentaire, sera projeté le film Shaila à la médiathèque de 18h30 à 20h30. Shaila, c'est un film qui raconte le parcours de cette jeune femme, Shaila, 23 ans, pour se libérer d'une relation conjugale violente. Ça se passe dans le nord de la France et c'est un combat de 4 ans où l'on assiste à la fois à ses tentatives d'émancipation, à son désir puissant de justice et en même temps aux mécanismes de l'emprise et de la dépendance. C'est à voir dans le cadre de Une femme toutes les 48 heures et du mois du doc à la médiathèque d'Aubenas à 18h30. Sans transition, et pourtant c'est dans le même espace-temps, c'est-à-dire demain à la médiathèque d'Aubenas, Nico de l'émission Wild Wise World Music, à retrouver sur les bonnes ondes de Fréquence 7 les vendredis à 22h, vous emmènera sans doute dans un univers plus léger, fait de musique du monde qui continue de se métisser. Il sera en effet aux commandes de l'apéro musical mensuel proposé par la médiathèque et Fréquence 7, le dernier mardi du mois, pour vous faire découvrir toutes les richesses et les styles de musiques infinies et jusqu'à la galaxie. Et pour s'en donner un avant-goût, on écoute d'ailleurs un morceau que Nico a diffusé là dans la dernière émission Wild Wise World Music. Ça s'appelle Amela du groupe Aïta Mon Amour, issu de l'album Abda.
Ah, on a pris un azri ou les oeufs.
On est avec Jean-Claude Lecoq, auteur de Too Old to Die Young, Trop vieux pour mourir jeune, paru l'année dernière en 2024 aux éditions Urubu Livre et qui est magnifiquement illustré, on en parlera. Jean-Claude Lecoq qui pissait la face du vieux monde en 71 sur la grille de son lycée à 17 ans avant de tailler la route en Iran, en Inde, au Pakistan, en Afghanistan, étudiant comme il le dit en avant-propos de son livre les produits locaux et leurs corollaires carcéraux. Libraire, libertaire, esprit libre, sous de multiples dépendances quand même, on en parlera. Bonjour à toi, Jean-Claude.
Bonjour.
Et bonjour également à Marion et Kinga. Bonjour à toutes les deux. Salut Marion.
Bonjour.
Kinga, salut.
Bonjour.
Vous êtes là pour entrer de plein pied dans la subversion made in Jean-Claude. Et également aux manettes, Sylvain. Salut Sylvain.
Salut.
Subversif. Merci donc d'être là, Jean-Claude. Et si tu veux, on va prendre l'express Amsterdam-Lyon de 23h33 de ton livre et puis faire quelques arrêts pour dessiner ensemble une forme de géopolitique de quelques moments de vie. Mais d'abord une première question. Marion.
Peut-être pour commencer, pour nos auditeurs et auditrices, et remettre un peu ce livre dans son contexte. Vous avez donc écrit ce livre, enfin publié ce livre l'année dernière, donc en 2024. Qu'est-ce qui vous a poussé d'écrire ce livre maintenant ?
On sait pas mal de nouvelles que j'avais laissées inachevées, en fait, et que j'ai décidé de finir parce que j'ai un ami imprimeur qui a contacté tous les dessinateurs qui m'ont offert les dessins, je tiens à le préciser, entre tout Willem, Thierry Guitard, tout ça. Il est à 50% responsable du livre. Moi, je n'ai fait que les textes.
L'éditeur, et oui, et on va tous les citer, hein, les illustrateurs, parce que c'est vrai que les illustrations, elles sont magnifiques. Il y a Jacques Floret pour Machine Gun, Arnaud Pendrier, Willem, dont tu as parlé, Thierry Guitard, Yvan Brun, Tom de Pékin aussi, Stéphane Desplanches et David Snug. Voilà. Merci.
Ouais, c'est donc Stéphane Desplanches qui a été à la fois mon éditeur, mon imprimeur et mon mécène. Et donc lui, il bosse dans une imprimerie, mais c'est un boulot, quoi. Il fait des panneaux publicitaires, des trucs comme ça.
Des quoi ?
Des panneaux publicitaires, des...
Dans ta bouche, c'est un petit goût bizarre. Des panneaux publicitaires, ok.
Tu sais, des genres de trucs qu'on colle sur les camions. Tout. Mais lui, ce qu'il aime, c'est les livres, les beaux livres. Donc, il m'a proposé de faire ça. C'est lui qui a réuni les dessinateurs, tout.
Et l'édition Urubu Livre ?
C'est une référence à la librairie que j'avais à Valence, qui s'appelait Urubu. Donc c'est un peu le prolongement, quoi, éditorial.
Librairie qui faisait aussi partie, vous avez peut-être créé avec Serge Ray, le festival de la Cambuse Noire, c'est ça ?
Ouais, c'est ça, ouais.
Qui est un festival de littérature résistante et noire. Est-ce que vous pensez que votre livre fait partie de ce mouvement-là ?
Oui, bien sûr.
Et comment vous le définiriez ? Une littérature résistante et noire.
Disons que c'est une littérature essentiellement anti-nombriliste par rapport à beaucoup de choses qui paraissent un peu n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Moi, mon ambition, c'était juste de raconter des histoires que j'avais vécues et aussi d'y montrer ma mentalité et de le faire aussi pour les gens que j'ai connus, dont beaucoup sont plus de ce monde d'ailleurs, pour diverses raisons.
On va parcourir un peu ce monde-là et on va essayer de s'immerger un peu justement dans cet état d'esprit dont tu parles, Jean-Claude. Tu avais une question, Kinga ?
Oui, j'aimerais bien. Est-ce que vous pourriez nous expliquer le sens du titre du livre ?
J'ai 71 ans et j'aurais pu mourir une demi-douzaine de fois sur la route, donc voilà. Trop vieux pour mourir jeune.
Trop vieux pour mourir jeune. Non, justement, tu parles de... T'aurais pu mourir une demi-douzaine de fois sur la route. Eh ben, on l'apprend justement avec téléphone.
J'ai pas le temps d'y penser. Tu sais, je suis pas prête à arriver. Je suis sur la route. Je suis en déroute. Je suis sur
téléphone sur la route pour ouvrir la deuxième nouvelle du bouquin qui s'appelle « Sur la route, en déroute ». On est en février 1977, Téhéran. Alors déjà, il faut dire que... allez, les statistiques sont peut-être un peu oiseuses, mais c'est à 75% autobiographique.
Oui, peut-être même plus.
Alors, téléphone sur la route, en déroute, tu pars sur la route. Vas-y, explique-nous ce qui se passe.
C'était un peu un hymne, parce que quand je suis parti avec un copain, on est parti de Valence avec 300 francs français. On s'est retrouvés en Grèce, c'était la révolution iranienne, normalement on ne pouvait pas passer. Nous on est passé quand même. Bon, avec des Pakistanais, c'était un peu du trafic de voitures, tout ça. Et en Grèce, donc on a rencontré deux Français, totalement par hasard, l'un à la guitare jouait cette chanson. Donc on est devenus potes, ils étaient là pour se balader, ils ont fini au Pakistan.
Et alors, toi, qu'est-ce qui t'a amené sur la route, justement, dans les années 70?
Disons que, bon, 68, j'étais trop jeune, j'avais 14 ans, mais je regardais ça un peu avec envie. Et dans les années 70, j'ai commencé à participer à tous les mouvements, le groupe Insoumission Totale, c'est-à-dire refus de l'armée, tout ça. Ça a duré un certain temps. Jusqu'à ce que les gendarmes viennent un peu trop souvent chez ma mère pour me chercher, pour m'emmener à l'armée. Donc voilà, je suis parti en Asie.
Tu as déserté?
J'ai déserté. Enfin, déserté, c'est pas le terme, parce que déserteur, faut avoir fait les 3 jours. Bon, moi, je les avais même pas fait, j'y étais pas allé. Donc j'étais insoumis, ce qui me convient très bien.
T'étais insoumis sur la route, et alors c'est vraiment le sujet, cette nouvelle, elle est terrible. D'abord, il faut dire, on en lira quelques extraits, c'est très bien écrit, il y a vraiment tout un style à la fois noir, avec un humour, et oui, pas mal d'humour, ou d'autodérision presque sur ce qui se passe là-bas.
C'est ce qui aide un peu à survivre, hein, l'humour.
Et les drogues, on en parle?
Oui, on peut, bien sûr.
Parce que voilà, sur les routes en Iran, en Turquie, c'est la dope. Une question peut-être naïve, mais ce qui te pousse sur la route, c'est d'essayer des choses comme voilà, pas mal de Français l'ont fait, sont partis justement sur les routes de Katmandou pour tenter voilà ce qu'on appelait à l'époque les paradis artificiels. Est-ce que c'est ça qui t'a motivé ou pas? Est-ce que tu as découvert ça plus tard?
Non, disons que pour moi, c'était avant tout fuir l'Occident. J'en pouvais plus de ce mode de vie, enfin, surtout après les désillusions des années 70, tout ça. Donc à défaut de changer la vie, j'ai changé de vie.
Et un mode de vie que tu décrirais comment? Contre quoi? Non pas tu te battais, mais tu partais.
Contre le conformisme, contre tout ce qui se passait en Europe à l'époque. C'était l'époque de Giscard, tout ça. C'était pas très drôle, on va dire. Et moi, je faisais... Bon, il y a plein de gens que j'ai connus. Certains sont retournés à leurs études après 68, se sont fait une place pépère. D'autres sont rentrés dans la lutte armée. Il y avait Action Directe Lyon. Et moi, je refusais les deux.
Tu refaisais la lutte armée?
Ouais, parce que les mecs que je connaissais dans la lutte armée, en fait, c'était aussi aliénant que la société. Parce que pour eux, pour pouvoir se battre contre le capitalisme, il fallait s'engager, apprendre le maniement des armes, devenir genre para, tout ça. Et il y avait une grosse discipline dans la clandestinité. Et moi, ça me convenait pas.
Pas de discipline. T'étais pas tout seul, justement, à partir, je le disais, il y a pas mal de Français qui sont partis. Justement, on va écouter un petit son.
Entre 1968 et 1979, des milliers de jeunes Français et Occidentaux ont quitté leur pays et arpenté les routes de l'Orient, avec en tête des destinations hypothétiques, dont le nom résonnait depuis des siècles avec la force du mythe. L'Inde, Katmandou.
C'était des anciens combattants de 68. En fait, c'était des hippies.
Les cocus de la Révolution, donc ils sont partis tous plus ou moins vers l'Est, vers l'Orient, vers l'Inde.
On les sentait oppressés. Donc, à la recherche de liberté, à la recherche du paradis qui ne semblait pas trouver en Europe.
J'étais psychorigide, j'étais bien dans mes certitudes, quoi, et tout ça a volé en éclats.
Pendant les trois premières semaines à Bénarès, je rampais pour me déplacer. Je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus tenir debout.
Nous, on nous appelait les fucking French junkies, hein, quoi. Même à certains endroits.
Les fucking French junkies, c'est toi, Claude, Jean-Claude, qui prononce ces mots, puisque là, ce qu'on vient d'entendre, c'est le teaser d'un film documentaire de Edwin Rubanovitch qui s'appelle Tailler la route, le grand trip vers l'Inde et Katmandou, où il a interviewé voilà, donc pas mal de Français, dont toi, et qui parle ces fucking French junkies, ces putains de drogués français.
Voilà. Disons que c'était essentiellement des Français et des Italiens, et aussi quelques Autrichiens, Allemands qui fuyaient leur pays parce que ils en pouvaient plus de vivre là-dedans, quoi.
J'ai une question tout à l'heure. Tu disais, t'es pas rentré dans la lutte armée parce que finalement, t'étais quand même en dépendance, ça demandait beaucoup de contraintes, etc. Comment on articule liberté et dépendance à des substances ?
En se procurant les substances.
Ok.
D'une manière pas forcément légale.
C'est ce qui t'a conduit d'ailleurs à faire de la prison ?
Ouais, bien sûr. Mais bon, c'était une manière de vivre. Pour moi, la prison, c'était juste un accident du travail, on va dire.
On a un petit extrait justement de cette nouvelle, donc sur la route en déroute. Et c'est Marion qui a choisi, et je pense qu'elle a choisi le plus lumineux de cette partie.
Les deux frangins me guident vers un local décrépit qui s'affiche comme une agence de voyage. Assis sur des bancs, adossés au mur, des voyageurs palabres ou somnolent sur leurs baluchons dans l'attente de leur bus. Au fond du local, le patron de la boîte est vautré dans un fauteuil, derrière un guichet grillagé. Il me salue, m'interroge dans un anglais approximatif sur ma nationalité et les raisons de ma présence ici sans argent. J'ai beaucoup de mal à m'expliquer et s'engage dans un long conciliabule avec les gamins. Il me jette un regard, puis me tend un billet pour Erzurum, destination finale de sa ligne, qui ne dessert que quelques autres villages dispersés aux alentours. Erzurum, environ 300 bornes sur les 2000 qui me séparent des rives du Bosphore et de ce vieil apothicaire qui vend de la teinture d'opium à la fiole pour un prix dérisoire. Je remercie le boss de 1000 thank you very much qui me rend, en souriant, qu'Allah me protège, regrettant de ne pas pouvoir venir dans mon pays. France, beautiful country, I have seen movies, postcards. Le sourire est grillard, il ajoute, Brigitte Bardot. À l'entrée, l'aîné des gosses déplie un mouchoir rempli de pièces de monnaie et de petites coupures, et me le tend. Devant mon air interloqué, il m'explique que tous les passagers de la salle d'attente y sont allés de leur obol. Mon cœur se fend, et je n'arrive pas à retenir mes larmes. Devant mon air interrogatif, il se pose la main sur la poitrine et répond en cœur, musulman. Je ne trouve qu'un mot pour les remercier, un mot que les musulmans de tous les pays connaissent. Shukran. Le grand merci. Le merci à Dieu, à la vie, à l'homme, divine créature, l'homme bon, qui, dans l'islam, a le devoir de donner aux pauvres et d'accueillir l'étranger.
C'est ça aussi la rencontre avec l'Orient ?
Ouais, ça c'est magnifique. C'est des moments qu'on peut pas vivre en Europe, quoi. En Europe, tout le monde se fout de ce que sont les gens à côté de toi, quoi. Et là, ces deux gamins, franchement, ils ont été géniaux. Ils parlaient quelques mots d'anglais, enfin, on arrivait à se comprendre. Et je savais pas du tout ce qu'ils avaient fait dans la salle d'attente, quoi. Ils ont fait la manche pour moi. Et eux, ils trouvaient ça normal. Musulmans, c'est normal, c'est un devoir. Mmh. À ces temps-ci, musulmans, c'est devenu un peu péjoratif. Mais il y a aussi ce côté-là, le partage avec les pauvres, l'hospitalité, le respect des étrangers, parce qu'ils considèrent que venir chez eux, c'est un peu un hommage.
Et cette, justement, cet Orient-là, tu lui rends hommage aussi dans une autre nouvelle qui s'appelle « Suppôt de Satan ». Terrible. Alors, c'est une fable. Alors là... Donc, à l'humour, alors, je ne vais pas dévoiler, il y a un petit twist terrible. « Suppôt de Satan », extraordinaire.
Non, celle-là, elle est totalement inventée. Disons que ça faisait longtemps que j'avais envie d'écrire un truc sur l'Afghanistan. J'y suis allé pour la première fois quand j'avais à peine 18 ans. Et je suis tombé, je ne sais plus où, sur cette légende qui disait que quand Allah avait créé la Terre, il lui restait un tas de cailloux, il l'avait balancé sur la Terre, et c'est devenu l'Afghanistan. Mais au départ, je savais pas du tout... où ça allait me mener. Et puis petit à petit, en écrivant, en cherchant de la doc, j'ai trouvé cette histoire de Suppôt, parce que ça a vraiment existé, même si ça marchait pas, quoi. Il y a des kamikazes qui ont essayé les suppôts explosifs, et bon, ça n'a pas donné de gros résultats. Et après, à la fin, je me suis aperçu qu'en fait, ça donnait les deux facettes de la résistance afghane, c'est-à-dire d'un côté le mollah barbu, un peu salopard, quoi, violeur, et de l'autre l'équivalent du commandant Massoud, plus libertaire, disons.
On va franchir quelques années et on va aller via d'autres nouvelles, notamment une nouvelle qui s'appelle « Lyon Express ». Dans Lyon, des années 80, on est, alors pas n'importe où, on est à la Croix-Rousse. On écoute tout de suite un petit extrait pour nous mettre dans l'ambiance.
Que ce soit l'armée rouge, les flics de Pretoria, malgré le sang qui coule. Ma cochina, ma cochina, les drapeaux sont noirs.
Une version des Berruriers Noirs pour Makhnovchina. Alors, Makhnovchina, tu nous dis ce que c'est et on se retrouve après. C'est une forme de petit teasing. On se retrouve pour le prochain épisode de cette interview. Avant de nous quitter, pour cet esprit libertaire de résistance, on en parlait depuis le début de cette interview. Makhnovchina, qu'est-ce que c'est?
Alors, la Makhnovchina, c'était un mouvement de paysans ukrainiens, mais qui s'estimaient trahis par la révolution d'octobre, quoi. Et qui donc s'était mis à s'autogérer. Il avait monté une armée dont Makhno était en quelque sorte le chef, le dirigeant, on va dire. Bon, il se trouve qu'ils ont été écrasés à la fois par les Russes blancs, c'est-à-dire les tsaristes, alliés aux communistes orthodoxes.
La suite dans le prochain épisode. Merci Jean-Claude Lecoq, donc, qui est là pour nous présenter « Trop vieux pour mourir jeune », ton premier, on est bien d'accord, ton
ouais.
Premier bouquin, un recueil de 8 nouvelles qui nous fait voyager à travers les époques et à travers certaines civilisations. Donc on se retrouve... tout bientôt. Merci Jean-Claude.
Merci à vous.
Et tout bientôt, c'est demain. Vous retrouverez donc la deuxième partie, mardi. En attendant, sur les ondes de fréquence 7 à 13h, c'est Sam Travail. À 15h, le Telex. Vos événements en Sud-Ardèche. À 17h, la rediffusion de cette onde curieuse. À 18h, Solidaire d'abord. C'est la rediff également de la semaine dernière. À 19h, l'écho du parquet. Et à 21h, Hexagone Live. La rediff encore, consacrée au concert de Deep Purple en 75 au Palais des Sports de Paris. Je vous rappelle que Fréquence 7 est une radio associative locale, engagée pour vous, naturellement décalée, un peu skiff, et que pour maintenir son indépendance et aujourd'hui sa survie, elle a besoin de vous. Vous le savez, le FSER, le Fonds de soutien à l'expression radiophonique, est menacé d'être ratiboisé de 45%. Ça signifie, en clair et en substance, 20 000 euros de moins pour votre radio, soit un poste salarié, alors qu'elle n'en contient que deux, qu'elle n'en compte que deux. Donc si vous pensez que la vie serait trop moche sans Fréquence 7, alors adhérez, soutenez ce projet fou qui dure depuis plus de 40 ans. Comment ? En allant sur votre site internet ou en remplissant le bulletin d'adhésion que vous trouverez dans tous les guides de programmes que vous trouverez un peu partout, ou juste en passant nous voir. Voilà. Merci beaucoup. Merci Sylvain. La bise à toutes et tous. On se retrouve demain. Ciao.